Chapitre 35. Les jambes tremblantes, Callan baissa les yeux sur le cadavre. À présent, les sentiments revenaient, et elle ne voyait plus qu'un pauvre petit garçon mort bien trop longtemps avant son heure. Comme toujours, après avoir recouru à son pouvoir, elle se sentait épuisée. Autour d'elle, les arbres encore debout ressemblaient aux jurés d'un tribunal silencieux. Sur la neige autour du mort, des taches de sang témoignaient que l'étincelle de la vie l'habitait encore quelques secondes plus tôt. Soudain, l'inquisitrice se demanda si elle n'avait pas tué Kara en même temps que Lyle. Touchée par le pouvoir d'une inquisitrice, une mort de site n'avait guère de chance de survivre. Mais dans l'action, Callan n'avait pas pu tenir compte de ce facteur. Elle avait fait de son mieux pour avertir Kara afin qu'elle se tienne le plus loin possible au moment dangereux. Quand Lyle avait bondi, plus rien n'avait eu d'importance, à part l'absolue nécessité d'agir. Comme face à Nietzsche, la moindre hésitation aurait pu être fatale. À présent, c'était terminé, et l'inquiétude pour la mort de Sith reprenait ses droits. Kara gisait dans la neige, à droite de l'inquisitrice. Si elle n'avait pas lâché l'enfant au moment où... La mort de Sith remua et gémit. S'agenouillant près d'elle, Callan la saisit par les pans de son manteau et la souleva un peu du sol. « Tu vas bien ?»«
Bien sûr. Vous me croyez assez idiote pour ne pas avoir lâché ce petit tueur ?»
L'inquisitrice soupira de soulagement.
« Non, mais je redoutais que tu te sois brisé le cou en tombant si violemment en arrière. »«
Ça n'est pas passé très loin, je dois l'avouer. »
Warren aida les deux femmes à se relever. Avec une grimace, il se massa ensuite les épaules puis se frotta les coudes. D'après ce qu'on disait, être trop près d'une inquisitrice quand elle libérait son pouvoir était une expérience qui traumatisait particulièrement les articulations. Par bonheur, il n'y avait pas de véritables dégâts et la souffrance disparaissait rapidement. Quand Warren baissa les yeux sur Lyle, Callan devina que les séquelles morales de ce drame ne s'effaceraient pas si vite.
« Créateur bien-aimé, » soupira le futur prophète. « Bon sang, ce n'était qu'un gamin. Fallait-il vraiment le tuer ?»
« Oui, » affirma Callan. « Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Kara et moi avons déjà connu une situation similaire face à Marline.
C'était un adulte. Lyle, eh bien, un gosse ne peut pas... »«
Warren, ne vous torturez pas pour rien. » Jagang contrôlait son esprit comme celui de Marline. Je sais de quoi je parle. Il était terriblement dangereux.
« Quand je ne peux pas retenir quelqu'un, » dit Kara, « personne n'en est capable. »
Warren se laissa tomber à genoux près du cadavre et lui caressa les tempes en récitant une prière.
« Jagang est le seul vrai coupable, » dit-il en se relevant. « C'est lui qui est la cause de tout. »
Dans le lointain, Callan vit des soldats accourir. Ils volaient à son secours un peu trop tard, mais l'intention était louable quand même.
« Si vous préférez voir les choses comme ça, »
dit-elle en s'éloignant, Kara à ses côtés.
Warren les rattrapa, prit l'inquisitrice par le bras et la força à s'arrêter. « Vous visez Anna, c'est ça ?»«
Oui.
Et vous êtes sa victime aussi. On vous a enfermé au palais des prophètes quand vous étiez enfant, n'est-ce pas ?»«
C'est vrai, mais rien du tout.
Les sœurs vous ont capturé, comme ce pauvre petit garçon. »
Callan enfonça les ongles dans ses paumes. Elle devait contrôler sa fureur.
« Et comme Richard ?»« Ne vous fiez pas aux apparences, mère inquisitrice. Les prophéties... » « Regardez à quoi elle mène !»
cria Callan en désignant la dépouille de Lyle.
« Voilà le résultat. La mort et le désespoir, tout ça au nom de ces maudites prédictions !»
Submergé par tant de rage, Warren ne tenta pas de justifier sa position. Consciente qu'il n'était pour rien dans ses malheurs, Callan baissa d'un ton.
« Combien de gens devront mourir à cause de vos absurdes prophéties ? Si Anna n'avait pas envoyé Verna à la recherche de Richard, rien de tout ça ne serait arrivé !»
« Comment le savez-vous, Callan ?
Je comprends vos sentiments, mais vous pouvez vous tromper. La barrière a tenu pendant 3000 ans. Pour la détruire, il fallait un sorcier né avec les deux magies. Richard est le premier depuis 30 siècles, et Anna l'a fait capturer par Verna. Si elle s'était abstenue, l'ancien et le nouveau monde seraient toujours séparés. Jagang resterait coincé chez lui, les contrées ne risqueraient rien, et Lyle jouerait joyeusement à la balle dans la cour de sa maison familiale.
« Callan, ce n'est pas si simple, » soupira Warren. « Je ne veux pas polémiquer avec vous, mais il faut comprendre que les prophéties se réalisent de plusieurs manières. Parfois, elles influencent le cours de l'histoire,
Si Verna n'était pas intervenu, Richard se serait tôt ou tard approché de la barrière et il aurait provoqué sa disparition. Ce n'est pas la cause qui importe, mais les actes. Cela devait arriver. Et Anna a seulement été l'outil du destin.
Combien de massacres vous faudra-t-il pour regarder la vérité en face, Warren? Les prophéties sont un fléau.
J'ai toujours voulu devenir un prophète pour aider les autres. Si je pensais comme vous, je me détournerais de ma vocation.
Warren eut soudain un petit sourire.
Et n'oubliez pas un détail. Sans les prophéties, vous n'auriez jamais rencontré Richard. Regrettez-vous qu'il soit entré dans votre vie? Moi, je suis ravi qu'il fasse partie de la mienne.
Le regard furieux que lui jeta l'inquisitrice glaça les sangs de Warren.
J'aurais préféré vivre jusqu'à la fin de mes jours seul et sans amour plutôt que de savoir qu'il souffre à cause de moi. Si je ne l'avais pas connu, je ne serais pas aujourd'hui folle de rage parce que les tenants des prophéties telles que vous l'ont condamné à ne jamais être heureux.
Warren glissa les mains dans les manches de sa tunique et baissa la tête.
Je comprends que vous réagissiez ainsi. Callan, parlez avec Verna. Ça vous fera du bien.
En quel honneur? C'est elle qui a exécuté les ordres d'Anna.
Parlez-lui, c'est tout. J'ai failli la perdre parce qu'elle pensait exactement la même chose que vous.
Verna? C'est impossible.
Pas du tout.
Pendant un moment, elle a cru qu'Anna l'avait manipulée à des fins discutables.
Pendant 20 ans, elle a cherché Richard en vain, alors que la dame abbesse savait depuis le début où il était. Vous imaginez ce qu'elle a éprouvé en découvrant ça?
Et il y a eu autre chose.
Anna a mis en scène sa propre mort, et intrigué pour que Verna soit nommée dame abbesse. Ma future femme est passée à un cheveu de jeter son livre de voyage dans les flammes.
Eh bien, elle a eu tort de ne pas le faire.
J'essaie simplement de vous dire que lui parler vous apaisera. Elle comprendra ce que vous ressentez.
Et ça changera quoi?
Même si vous avez raison, qu'est-ce que ça change désormais? Ce qui est fait ne peut être défait. L'ordre attaque le Nouveau Monde, et Nietzsche a capturé Richard. Quelle que soit la cause de ces événements, nous devons les affronter, pas nous lamenter.
Vous avez acquis cette profonde sagesse en étudiant les prophéties?
Warren ne put s'empêcher de sourire.
Non, c'est Richard qui me l'a enseigné. Et une femme très intelligente de ma connaissance m'a dit fort récemment qu'il ne faut pas se torturer pour rien.
Malgré tout son désir de rester en colère, Callan sentit qu'elle n'y parviendrait pas. Il y avait chez Warren quelque chose de désarmant, une innocence sincère qui venait à bout des rages les plus noires.
« Je me demande si elle est si intelligente que ça, votre amie. »
Warren fit signe que tout allait bien aux soldats qui approchaient, armes au poing. Ils ralentirent un peu mais ne rengainèrent pas leurs épées.
« Assez pour éventer le plan de Jagang, puis après avoir été attaqué par un de ses sorciers, pour lui faire croire subtilement qu'elle était tombée dans son piège. »
Callan jeta un regard soupçonneux au futur prophète.
« Quel âge avez-vous, Warren ?»«
Je viens de fêter mon 158e anniversaire. Pourquoi cette question ?»«
Voilà qui explique bien des choses, »
marmonna Kara en se remettant en route.
« Vous devriez cesser d'avoir l'air jeune et innocent. Ça devient agaçant à la longue. »
Quelques heures plus tard, lorsque Callan, Kara, Warren et leur escorte y arrivèrent, le camp grouillait d'activité. Partout, des hommes chargeaient les chariots, préparaient les attelages ou aiguisaient les armes. Les tentes n'étaient pas encore démontées, mais des soldats équipés des pieds à la tête, certains finissant d'avaler leur dîner, écoutaient leurs officiers leur donner d'ultimes instructions avant le départ d'une force vers le nord, où il faudrait intercepter l'ennemi avant qu'il ait achevé sa manœuvre d'encerclement. En passant devant des tentes, Callan vit d'autres officiers penchés sur des cartes d'état-major. L'odeur de nourriture qui planait dans l'air lui rappela qu'elle mourait de faim. En hiver, la nuit tombait tôt et avec le ciel plombé, on se serait cru au début de la soirée, pas en fin d'après-midi. Le temps morose devenait d'ailleurs déprimant. Le soleil se montrait de plus en plus rarement et les tempêtes de neige imminentes n'arrangeraient rien. Callan mit pied à terre et confia son cheval à un jeune soldat. Elle ne montait plus un destrier désormais. Comme presque tous les cavaliers, elle avait opté pour un animal plus petit et plus agile. Lors des charges frontales, les destriers étaient parfaits. Quand on livrait une guerre de harcèlement, la vitesse se révélait plus utile que la puissance. Grâce à leur nouvelle tactique, Callan et le général Meffert parvenaient depuis des semaines à contenir l'armée de l'ordre. Laissant l'ennemi mettre sur pied une attaque massive, il faisait mine de vouloir la repousser, puis s'écarter au dernier moment, ravi que les soldats adverses se soient fatigués pour rien. Dès que l'ordre marquait une pause, histoire de reprendre son souffle, Meffert lançait des contre-attaques très ciblées et très brèves, puis il faisait semblant de vouloir passer vraiment à l'offensive, et y renonçait juste après que l'armée de Jagang se fût épuisée à ériger des défenses. Ce jeu du chat et de la souris fonctionnait très bien, avec une variante toutefois. Quand les soudards de l'ordre, fatigués de courir en vain derrière des ombres, décidaient d'aller s'en prendre aux civils dans les villes environnantes, Kalan et Meffert lançaient une véritable attaque, dans leur dos, et faisaient assez de dégâts pour les forcer à rebrousser chemin, toute idée de pillage et de mise à sac oubliée. Les manœuvres des Darans rendaient fous les hommes de Jagang. Persuadés que de vrais guerriers devaient s'affronter face à face sur un champ de bataille, ils se sentaient insultés qu'on joue à cache-cache avec eux. Bizarrement, être 20 fois plus nombreux que leurs adversaires semblait les déranger beaucoup moins. Consciente qu'un conflit classique serait sans espoir, Kalan se fichait de heurter la sensibilité des soudards. Tant qu'ils continuaient à mourir, leurs objections ne la dérangeaient pas. De plus en plus furieux, les impériaux oubliaient tout bon sens. Chargeant dans les pires conditions, ils tentaient de conquérir des positions imprenables ou sacrifier des milliers d'hommes pour de ridicules avantages qu'ils reperdaient le lendemain. À force de voir des sections entières avancer sous le feu des archers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul homme debout, Kalan avait presque pitié de ces imbéciles envoyés à la boucherie par des chefs déments. Du côté d'Aran, on dénombrait cependant des milliers de morts et de blessés graves. Mais selon leurs estimations, Kalan et Meffert avaient réduit d'au moins 50 000 têtes l'effectif adverse. Un bon résultat, mais qui revenait hélas à avoir écrasé une fourmi alors que toute la colonie était sortie de la fourmilière. En l'absence d'autres possibilités, le général et l'inquisitrice se satisfaisaient de ce maigre résultat. Kara à ses côtés, Kalan traversa le camp pour rejoindre les tentes de commandement. Quand on ne connaissait pas la couleur code du jour, les trouver était impossible. Pour tromper les espions et les sorciers, les officiers supérieurs se réunissaient dans des tentes parfaitement ordinaires. Ainsi, aucune attaque physique ou magique ne pouvait viser spécifiquement les têtes pensantes de l'armée. Des bandes de tissus colorés accrochées aux tentes signalaient leur appartenance à l'une ou l'autre unité. S'inspirant de ce système ingénieux, Kalan l'avait un peu adapté. Pour le poste de commandement, on changeait de couleur tous les jours et on le déplaçait très souvent. Quand l'inquisitrice entra sous la tente principale, le général Meffert leva les yeux de la carte qu'il était en train d'étudier. Le lieutenant Leiden participait à la réunion, en compagnie du capitaine Abernathy, le chef des Galéiens, et Adi y représentait les unités magiques. Bien que ses yeux fussent entièrement blancs, la croire aveugle aurait été une grossière erreur. Mutilée par des fanatiques quand elle était jeune, la Dame des Ossements avait appris à voir à travers le don, et elle était une magicienne très douée. Particulièrement efficace dès qu'il s'agissait de nuire à l'ennemi, elle aidait désormais à coordonner les interventions des commandos de Sœurs de la Lumière. « Où est Zed ?» lui demanda Kalan.
« Il inspecte nos lignes au sud. Tout le monde sait à quel point il est maniaque. »
Warren y est allé aussi, avec la même idée en tête. Après s'être soufflé sur les mains pour les réchauffer et avoir discrètement remué ses orteils gelés dans ses bottes, Kalan se tourna vers le général.
« Nous devons mettre sur pied une force importante, au moins 20 000 hommes. »
Meffert soupira de frustration.
« Ainsi, ils tentent bien de nous encercler. »«
Non, c'est une ruse. »
Les trois militaires plissèrent le front, attendant de plus en plus d'explications.
« J'ai parlé à Jagang. »«
Quoi ?»
coupa Meffert, paniqué.
« Pas directement, ne vous inquiétez pas. Mais par l'intermédiaire d'une de ces marionnettes. Allez, oublions ça. L'essentiel, c'est que je veux faire croire à l'empereur que nous sommes tombés dans son piège.
En obligeant ses hommes à tourner en rond, il espère nous obliger à diviser nos forces, et nous allons lui donner satisfaction.
Pourquoi ?»
demanda Leiden.
« Envoyer tant d'hommes au nord reviendrait à entrer dans son jeu. »
« C'est exact, mais ça n'est pas mon but.
Ces soldats devront seulement quitter le camp comme s'ils avaient l'intention d'aller vers le nord. » Kalan se pencha sur la carte, prit un morceau de craie dessina grossièrement les montagnes qu'elle venait de traverser et montra aux trois militaires un défilé bien spécifique.
« Mes Galéens sont environ 20 000, »
dit Abernathy.
« Soit le nombre d'hommes qu'il faut pour servir d'appât. »«
C'est exactement ce que je me disais, »
souffla Meffert.
« Marché conclu, »
trancha Callan.
« Capitaine, en empruntant ce défilé, vous pourrez contourner les montagnes. Quand l'ordre attaquera, nous pensant affaiblis, vous serez en position idéale pour une attaque de flanc. »
Le capitaine Abernathy, un officier soigné jusqu'au bout des ongles, si on exceptait sa moustache et ses sourcils grisonnants et broussailleux, hocha sereinement la tête.
« N'ayez aucune crainte. Mère inquisitrice, nos ennemis nous croiront partis, mais nous ne serons pas loin prêts à leur taquiner méchamment les côtes. »« Parfait. »
Callan se tourna vers Meffert.
« Il faudra aussi, mais discrètement, placer une seconde force sur l'autre flanc de la vallée, en face de celle du capitaine Abernathy. » Ainsi, nous prendrons les attaquants en tenaille. Refusant de se laisser piéger, ils battront en retraite, et les hommes restés au camp se lanceront à leur poursuite et massacreront leur arrière-garde.
Les trois officiers réfléchirent un moment à ce plan.
Mère inquisitrice, mes Keltiens seront parfaits pour faire le pendant des Galéens. Ils servent sous mes ordres depuis longtemps et ils sont très efficaces. Nous quitterons le camp par petits groupes, comme s'il s'agissait de patrouilles. Quand le piège sera en place, il suffira que le capitaine Abernathy nous envoie un signal et nous attaquerons en même temps que lui. Pour éviter des problèmes, je propose qu'une sœur de la lumière accompagne mes hommes et, le moment venu, vérifie l'authenticité du signal.
À l'évidence, Leiden voulait se racheter aux yeux de Callan. Accessoirement, il saisissait l'occasion de conférer à Kelton une certaine autonomie au sein de l'Empire d'Aran.
« Ce sera une mission périlleuse, lieutenant. Si quelque chose tourne mal, nous ne pourrons rien faire pour vous. Mes hommes connaissent bien ce terrain, et ils ont l'habitude de manœuvrer en hiver. Les soldats de l'ordre viennent d'un pays où le climat est moins rude. Nous aurons deux avantages, mère inquisitrice, et nous nous en sortirons très bien. »
Callan étudia longuement le Keltien. Le général Meffert ne verrait aucun inconvénient à ce que les choses se passent ainsi. Elle le savait. Abernathy partagerait cette position. Les Galéiens et les Keltiens étant des ennemis héréditaires, qu'ils combattent le plus loin possible les uns des autres ne pouvaient pas faire de mal. Richard avait uni tous les royaumes des contrées. Pour ces pays, collaborer était indispensable s'ils voulaient survivre. Sans être épaule contre épaule, les Galéiens et les Keltiens devraient coordonner leurs efforts. Un pas dans le bon sens. De plus, l'argument de Leiden avait du poids. Ces hommes étaient vraiment des experts du combat en montagne et en plein hiver.
« C'est d'accord, lieutenant. Merci, mère inquisitrice. Et si vous êtes brillant, j'envisagerai sans doute de vous restituer votre grade. Vous serez fier de mes hommes, je vous en donne ma parole. »
Callan accueillit ce serment d'un simple hochement de tête.
« Eh bien, il ne reste plus qu'à passer à l'action, messire. »
« Si tout marche bien, »
dit Meffert,
« nous devrions éclaircir considérablement les rangs adverses. »
Il se tourna vers ses deux collègues.
« Commençons sans tarder. Les Galéiens devront partir aujourd'hui, et je veux que les Keltiens soient en position dès demain matin. L'ordre n'attendra pas pour lancer son attaque, et il n'est pas question que nous ne soyons pas prêts. »
« L'ordre aime beaucoup lancer ses assauts à l'aube, » dit Abernathy.
« Mes hommes seront partis d'ici à 1 heure. » « Demain, au lever du soleil, ils seront en position. »«
Les miens aussi, » assura Leiden, « si je ne tarde pas à les mettre en mouvement. »
Les deux officiers saluèrent Callan et le général, puis ils se dirigèrent vers la sortie de la tente.
« Capitaine ?»
lança Callan.
« Oui, mère inquisitrice ?»
répondit Abernathy en se retournant.
« Savez-vous pourquoi le prince Harold et le reste de votre armée ne sont toujours pas là ? Nous ne cracherions pas sur des renforts. » « J'ignore ce qui les a retardés, mère inquisitrice, mais c'est inquiétant et je me suis déjà posé la question. »«
Oui, ils devraient déjà être arrivés, » souffla Callan.
« Vous pensez que le mauvais temps aura ralenti leur progression ?»«
C'est possible. Dans ce cas, le prince Harold ne devrait plus tarder car les tempêtes de neige sont finies. »«
Espérons que nous le verrons bientôt. »« Mère inquisitrice, soyez certaine que le prince tient à participer à cette guerre. » Il m'a confié qu'arrêter l'ordre impérial ici était dans l'intérêt de notre royaume. Si l'ennemi pénètre dans la vallée de Calisidrine, puis déferle sur les contrées du milieu, nos terres et notre peuple seront en danger.
Callan jeta un coup d'œil au lieutenant Leiden et devina aussitôt ce qu'il pensait. Si Harold avait changé d'avis, décidant de tenir la vallée de Calisidrine afin de protéger l'accès à son royaume, l'ordre pouvait très bien choisir d'éviter l'obstacle en passant par le nord-est, d'abord en contournant les montagnes, puis en traversant les plaines de Cairn, un itinéraire qui le conduirait droit sur Kelton. Si noires que fussent ses pensées, l'ancien général eut l'intelligence de les garder pour lui.
« Le temps était épouvantable quand je suis arrivé ici, » dit Callan. « Après tout, c'est normal en hiver. Je suis sûr qu'Harold sera bientôt ici pour lutter aux côtés de sa reine et des autres peuples de l'Empire d'Aran. »
Après avoir subtilement rappelé aux deux officiers qu'ils étaient seulement les membres d'une alliance, Callan les gratifia d'un sourire désarmant.
« Merci beaucoup, messire. Vous devriez y aller maintenant. Puissent les esprits du bien veiller sur vos arrières. »
Dès que les deux hommes furent sortis, Adi se leva péniblement.
« Si vous n'avez pas besoin de moi, je file informer les sœurs Zed et Warren de notre plan. »«
Excellente idée, Adi, » approuva Callan.
« Quand une inquisitrice a utilisé son pouvoir, »
ajouta la Dame des Ossements,
« je le vois sur son visage, et ensuite elle a besoin de repos. »«
Je sais, mais il y a tant de choses à faire. »«
Si tu tombes malade, Oupi, ça n'aidera personne. »
La vieille femme se tourna vers Kara.
« Faites en sorte que la mère inquisitrice ait un moment de tranquillité. Au minimum, elle pourra sommeiller assise, la tête reposant sur une table. »
Kara alla chercher une chaise, la posa devant une petite table et fit un signe impérieux à Callan.
« Installez-vous, je monterai la garde. »
Effectivement épuisée, l'inquisitrice ne discuta pas. Une fois assise, elle ouvrit son manteau en peau de loup et le remonta un peu sur ses épaules. L'épée de vérité était toujours accrochée dans son dos et elle ne prit pas la peine de l'en retirer. Satisfaite qu'on lui ait obéi au doigt et à l'œil, Adi sortit en boitillant. Dès que Meffert fut parti, Kara se posta à l'entrée de la tente. Les bras posés sur la table, Callan y appuya sa tête et ferma les yeux. Pour oublier les terribles événements de la journée, elle pensa à Richard et à l'époque où ils vivaient heureux dans leur cabane. Morte de fatigue, elle eut l'impression que la chaise, la table et toute la pièce tournaient follement. Mais cela ne dura pas car elle sombra très vite dans le sommeil, l'image de Richard toujours présente devant son œil mental.